Excellent réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le bras de fer politique se poursuit au Venezuela entre le président Nicolas Maduro et l'opposant Juan Guaido qui s'est proclamé président par intérim. Bras de fer diplomatique également entre Washington et le président Maduro. 14 morts dans les manifestations depuis mardi. Les Vénézuéliens sont inquiets, vous l'entendrez. Des Français qui vivent aussi au Venezuela craignent la situation.
Emmanuel Macron a joué les invités surprises dans un débat citoyen avec des gilets jaunes hier près de Valence dans la Drôme.
Après avoir entendu les doléances d'une soixantaine d'élus lors d'un déjeuner, ISF glyphosate, Emmanuel Macron a répondu aux questions et aux critiques des protestataires. La séquence de l'exécutif qui se poursuit ce soir avec la secrétaire d'État Marlène Schiappa aux côtés de l'animateur Cyril Hanouna sur la chaîne de la TNT C8.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, éducation, faut-il revoir l'enseignement de la Shoah? Nous poserons la question à Yanis Roder, il est professeur d'histoire-géographie en collège à Saint-Denis.
Fort du soutien des États-Unis et de 16 des 34 membres de l'Organisation des États américains, Juan Guaido a déclaré hier soir vouloir organiser de nouvelles élections au plus vite au Venezuela. Celui qui a prêté serment avant-hier en tant que chef de l'État par intérim a répondu aux accusations de coup d'État portées par le président socialiste Nicolas Maduro. Juan Guaido, hier soir, dans un entretien télévisé à Univision.
C'est un moment historique, on peut le dire. Parler de coup d'État, on sait très bien que le régime de Maduro est soutenu par l'armée. Nous ne faisons que défendre la Constitution. On la protège pour que les citoyens vénézuéliens retrouvent un régime constitutionnel.
Juan Guaido, qui s'est proclamé président par intérim du Venezuela, il a promis d'œuvrer à l'acheminement d'aide humanitaire dans un pays ravagé par la crise économique, manque de nourriture et de médicaments. Mais sa démarche, depuis avant-hier, divise le Venezuela entre inquiétude et colère. Voici les réactions d'habitants à Caracas, Ramon et Gloria, au micro de Benjamin Delisle.
Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Non, je ne suis pas d'accord. On ne fait pas les choses comme ça de manière unilatérale. Avec Maduro, il devrait se parler, s'asseoir à une table pour aller de l'avant.
Cette révolution n'a laissé personne sur le carreau. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les femmes en général, toute la patrie, la jeunesse, tous ont été pris en compte. Aujourd'hui, on a une patrie, une vraie, pas une patrie vendue aux Nord-Américains et aux transnationales.
Le Venezuela divisé entre les partisans d'un président élu mais contesté Nicolas Maduro et un président autoproclamé, Juan Guaido, qu'une partie du monde a reconnu à commencer par les États-Unis. Selon les ONG vénézuéliennes, 14 personnes ont été tuées depuis mardi et le début de la nouvelle vague de manifestations. Faut-il quitter le pays? C'est la question que se posent notamment les 4000 Français qui vivent au Venezuela. Thibaut Cavallès a pu en joindre certains.
Alexis est arrivé à Caracas il y a tout juste 5 mois. C'est son épouse enseignante qui travaille, lui s'occupe de leurs 2 enfants. Depuis quelques jours, sa vie déjà difficile dans un pays miné par la crise, c'est encore un peu plus compliqué.
Évidemment, on ne bouge pas de l'appartement, on reste un peu reclus, entre guillemets. C'est des consignes de l'ambassade et un choix personnel aussi.
L'ambassade de France avait envoyé un message avant les manifestations de ce mardi. Tenez-vous à l'écart, limitez vos déplacements au strict nécessaire, faites des stocks. Alexis avait pris ses précautions.
Disons qu'on avait fait des réserves un peu avant de nourriture et d'eau. Pour l'instant, on n'envisage pas de quitter Caracas.
Miquel Orué, 65 ans, est lui franco-vénézuélien.
La situation politique que nous vivons actuellement est du jamais vu dans ce pays.
Actuel directeur administratif du lycée français de Caracas, il a toujours vécu au Venezuela.
Notre quotidien devient de plus en plus difficile à cause des pénuries alimentaires et médicales, aussi à cause de l'insécurité qui existe dans le pays.
Rester à l'abri des émeutes ou fuir, Miquel, malgré toute une vie au Venezuela, se pose sérieusement la question.
Avec mon épouse, n'ayant plus du tout de famille au Venezuela, étant tout seul ici, il est bien évident qu'à court terme, nous pensons quitter le pays.
Pour venir peut-être en France et retrouver son fils, qui lui a déjà fait son choix.
Et le dénouement de la crise au Venezuela dépendra beaucoup du rôle de l'armée, clé de voûte du pouvoir à Caracas. Jusqu'à présent, les militaires serrent les rangs derrière le président Maduro. Un soutien analysé par Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Dans le cas vénézuélien, il faut bien prendre en compte une chose très importante, même je dirais structurelle, c'est que l'armée au Venezuela fait partie du pouvoir, puisque la révolution bolivarienne, c'est un pouvoir qu'on qualifie de type civilo-militaire. C'est comme ça que ça a été théorisé par même le fondateur de la révolution bolivarienne, Hugo Chavez. Et donc l'armée est déjà au pouvoir au Venezuela. Et aujourd'hui, en tout cas jusqu'à présent, elle a confirmé, affirmé, réaffirmé sa loyauté en fait au gouvernement de Nicolas Maduro, même si depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois, on a assisté ici ou là, dans le territoire vénézuélien, de manière très localisée, à des dissidences, à des formes de soulèvements limités, mais qui n'existaient pas avant. Ça fait partie des évolutions de la dernière période, mais enfin, l'institution militaire reste aujourd'hui, jusqu'à présent, auprès de Nicolas Maduro. Elle est pleinement insérée, finalement, dans le tissu de la société vénézuélienne.
Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine à l'IRIS, il répondait à Christian Chéneau. Dans la crise vénézuélienne encore, les États-Unis ont demandé une réunion demain du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'avis de la Russie, qui soutient, elle, le président Maduro, tout comme le Mexique, la Turquie et la Chine. Moscou met en garde particulièrement contre toute tentative d'intervention militaire américaine au Venezuela. Aux États-Unis, après de longues semaines de dialogues de sourds, les négociations ont finalement repris entre démocrates et républicains et elles devraient se poursuivre aujourd'hui afin de trouver une solution temporaire au shutdown le plus long de l'histoire américaine, la paralysie partielle de l'administration fédérale qui dure depuis le 22 décembre et qui achoppe sur la question du mur que Donald Trump souhaite faire construire à la frontière avec le Mexique.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins. Arrêtons-nous à présent sur ce qu'a fait hier Emmanuel Macron.
Un coup de communication, le chef de l'État invité surprise dans un débat citoyen avec des gilets jaunes. Plus de 3 heures d'échange face à 250 Français à Bourg-de-Péage, une petite ville de la Drôme. Après avoir échangé avec une soixantaine d'élus un peu plus tôt, c'était lors d'un déjeuner débat à Valence. Ce rendez-vous face aux gilets jaunes n'était pas inscrit à l'agenda présidentiel. Des citoyens ont notamment interrogé Emmanuel Macron sur l'ISF.
Je suis gilet jaune et paysan bio. Tout à l'heure, M. Guillaume a dit que il fallait avoir confiance dans les politiques. Moi, je peux vous dire que je n'ai plus du tout confiance en vous. Vous avez enlevé l'ISF, une bonne partie de l'ISF, et les 0,1% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter l'année dernière de 12%.
Pourquoi j'ai proposé de supprimer l'ISF ? Parce que je crois que nous avons besoin de réindustrialiser notre pays. Si vous n'avez plus de gens qui investissent dans les usines, dans les entreprises, vous ne pouvez pas créer d'emplois. Les débats qu'on est en train d'avoir, on ne parle quasiment plus. Là, je suis très content ce soir d'avoir eu les premières questions là-dessus, mais j'entends trop peu parler du chômage. C'est la vraie inégalité, le chômage. Et donc, en effet, conformément à mes engagements, on a pris l'impôt sur la fortune et on a dit, les gens qui gardent cette fortune pour eux-mêmes, dans l'immobilier, je les taxe, mais ceux qui réinvestissent dans l'économie, ceux-là, je ne leur fais pas payer l'impôt sur la fortune.
Emmanuel Macron qui a par ailleurs indiqué hier qu'il serait impossible de supprimer complètement le glyphosate d'ici 3 ans, comme il s'y était engagé. Il y aura des exceptions pour ne pas mettre en danger la filière agricole, explique le chef de l'État. Et pendant qu'Emmanuel Macron était dans la Drôme, des ministres, des élus et des gilets jaunes débattaient eux en direct à la télévision dans l'émission politique sur France 2. Ingrid Levavasseur, qui s'est déclarée tête de liste du gilet jaune pour les élections européennes, n'a pas été ménagée par les autres contestataires. Une liste très critiquée par de nombreux gilets jaunes, comme notamment Éric Drouet, au vu du profil de certains candidats, Mathilde Dehimy.
Je me suis trompée sur En Marche et j'ai soutenu les gilets jaunes. Celui qui parle s'appelle Marc Doyer, picard de 53 ans qui a claqué la porte du bureau LREM le 21 décembre dernier. Je suis en phase avec mon engagement citoyen, dit celui qui se portait il n'y a pas si longtemps candidat à l'investiture En Marche pour les européennes. Un profil loin des ronds-points que n'a pas manqué de railler Éric Drouet sur son site le plus suivi des gilets jaunes. Le raccourci est facile. Voter pour cette liste gilets jaunes aux européennes, c'est voter pour la République en marche, est-il écrit dans son communiqué. En tête de cette liste, Ingrid Levavasseur, 31 ans, aide-soignante dans l'Eure, très présente dans les médias, comme son directeur de campagne Aïk Chahinian, ancien militant socialiste ou le représentant des Gilets jaunes de Montargis, comme du Nice, 29 ans. Montargois également, Ayoub Asso, qui avait organisé une réunion avec l'appui de Bernard Tapie. Brigitte Lapéroni présente elle aussi un profil plus politique, conseillère municipale de centre droit. 10 noms sont connus, mais il en manque 69 et la campagne s'annonce d'ores et déjà difficile.
Et la contre-offensive médiatique de l'exécutif continue de se déployer par ailleurs pour tenter de contrer le mouvement des Gilets jaunes. Ce soir à 22h30, c'est la secrétaire d'État Marlène Schiappa en charge de l'égalité femmes-hommes qui va co-animer une émission spéciale La Parole aux Français, aux côtés de Cyril Hanouna, animateur star de la chaîne C8 sur la TNT. Une stratégie pour renouer avec ceux qui soutiendraient les Gilets jaunes, explique Arnaud Mercier, professeur de communication à l'Université Paris 2 Assas.
Ça me paraît être une stratégie cohérente par rapport à un gouvernement et un exécutif de façon plus générale qui est accusé d'être très éloigné des Français populaires, d'être très éloigné de la culture populaire que peut incarner à sa façon le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, c'est quand même une façon de jouer la carte de la proximité tout en n'étant pas trop proche non plus, quoi. Je crois qu'effectivement, ils visent un maximum de public et avec des enjeux différents, parce que je pense que aujourd'hui Emmanuel Macron est absolument convaincu, comme ses conseillers, que de toute façon ils n'arriveront pas à convaincre des gilets jaunes acharnés et haineux qui n'ont plus comme seule revendication pour certains que Macron démission. Donc lui, il s'adresse à ceux qui ne sont pas forcément gilets jaunes, mais qui sont ceux qui disent qu'ils pourraient comprendre et soutenir les gilets jaunes. Et puis bien sûr, il s'adresse aussi à ceux qui justement ne sont pas gilets jaunes. Essayer de montrer que cet exécutif n'est pas si méprisant à l'égard des petites gens ou autres qu'on veut bien le dire. Et maintenant, on voit bien qu'il envoie un certain nombre de ses proches aller faire ce que lui ne peut pas faire.
Le professeur de communication Arnaud Mercier, il répondait à Sophie Delpont. En Italie, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini reste fidèle à ses valeurs. Celui qui est aussi chef de file de l'extrême droite oppose toujours une fin de non-recevoir à un navire humanitaire hollandais qui se dirige actuellement vers les côtes italiennes avec des migrants à son bord. L'Italie qui évacue par ailleurs le plus grand centre d'accueil du pays. Depuis quelques jours, les réfugiés et demandeurs d'asile sont envoyés dans d'autres régions sans savoir où exactement. Demain, ce sera le cas à Castelnuovo di Porto qui sera totalement vidé de ses migrants. Sur place, le reportage d'Antonino Gallofaro.
Anthony est au bord de la route, devant le centre. Il a l'air perdu. Une seule certitude, le Piémont. Son car quitte la région de Rome ce matin. L'homme de 27 ans, originaire du Nigeria, est arrivé en Italie et dans ce centre il y a 2 ans.
J'étudiais ici. Dans 5 mois, je devais obtenir une licence. Je dois aussi me rendre au tribunal le mois prochain. J'ai fait une demande d'asile. Mais le tribunal est à Rome et on me transfère dans le Piémont. La situation est très confuse. On ne nous donne aucune nouvelle. Ils ne respectent pas nos sentiments. Alors qu'ici, on était devenu une famille.
Cette famille, eh bien, il est obligé de la quitter. Décision du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, Matteo Salvini, le chef du parti d'extrême droite, la Ligue, applique sa nouvelle loi sécuritaire et veut économiser sur le système d'accueil au détriment de l'intégration. Anthony s'était par exemple engagé dans la paroisse du village, le père José Manuel Torres.
Depuis un moment, il s'engageait bien plus, comme peu de personnes, disponible quand il fallait nettoyer, couper l'herbe, même s'il ne s'y connaît pas, ou passer le vernis sur la barrière de l'église. Personne ne l'avait encore fait. Si seulement tous mes paroissiens étaient comme ça.
Certains migrants du centre ont déjà un permis de séjour régulier, mais avec la nouvelle loi, ils ne peuvent plus rester dans une structure publique. Ils sont donc livrés à eux-mêmes, comme Nicolas. Le maire du village, Riccardo Travaglini, veut le défendre à tout prix.
Il y a des personnes qui veulent t'héberger. Donc dès ce soir, tu auras un logement.
Plusieurs dizaines d'habitants du village ont déjà mis un lit à disposition.
Antonino Gallofaro en Italie pour France Culture. Le temps de ce vendredi 25 janvier marqué par un redout progressif qui va arriver par la façade ouest de l'Hexagone. Quelques pluies sur le nord, mais du soleil près de la Méditerranée ainsi que dans les Alpes. Les températures sont comprises cet après-midi entre 1 et 4 degrés du nord-est jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, 4 à 8 degrés en général partout ailleurs, jusqu'à 12 près de la Méditerranée, Guillaume Erner.
7h13 sur France Culture. Catherine Dutude, dans quelques instants, nous aurons la question du jour au sujet de l'éducation de la Shoah. Faut-il revoir cet enseignement ?